Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Maintenant, trois lectures plus spécifiquement pour la prédication. Et je vous invite alors à revenir dans l'Ancien Testament, dans Job, au chapitre 28, les versets 20 à 28. Job 28, 20. Alors, d'où vient la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout être vivant. Elle est dissimulée aux oiseaux du ciel. L'abîme de perdition et la mort disent « Nos oreilles en ont entendu parler ». C'est Dieu qui en comprend le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure, car c'est lui qui regarde jusqu'aux extrémités de la terre. Il voit tout sous les cieux. Quand il détermina le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna une règle à la pluie et une route à l'éclair et au tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta, il en posa les fondements. Et la scruta jusqu'au fond. Puis il dit à l'homme, « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. » Deuxième texte, un peu plus loin, dans les Proverbes, au chapitre 2, les versets 6 à 10. Proverbe 2, verset 6, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. » Et maintenant, le texte proprement dit de la prédication dans Jacques. Jacques, premier chapitre, les 8 premiers versets. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, salut, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.
Si ce matin nos pensées vont et viennent comme les vagues de la mer que le vent agite et soulève, il ne sera pas possible de saisir la parole de Dieu, de ce qu'elle nous enseigne. Nous avons besoin d'un point d'ancrage, nous avons besoin d'un lieu stable, et cette stabilité, c'est le Saint-Esprit qui peut la donner. J'implore donc le Saint-Esprit de river nos cœurs dans la direction de Christ et de sa parole ce matin. Nous commençons l'année 2023 par la troisième prédication sur l'épître selon Jacques. L'épître de Jacques est une épître pratique qui nous fait réfléchir sur des sujets très concrets afin de nous pousser à la sainteté, à l'application de notre foi que l'apôtre veut vivante et agissante. En fait, si votre foi ne fait aucune différence dans votre vie, vous avez besoin de lire l'épître de Jacques et de la comprendre. Dans les premiers versets de l'épître de Jacques, nous avons une chose époustouflante et complètement illogique pour nous. les épreuves sont un sujet de joie. Les épreuves sont un sujet de joie pour celui qui a une foi qui fait la différence dans sa vie. Donc, dans les premiers versets de Jacques, nous avons une chose époustouflante, complètement illogique pour nous. Les épreuves sont un sujet de joie. C'est pour celui qui a une foi qui fait la différence dans sa vie. Et Dieu sait que les épreuves testent la foi et la fortifient. En fait, celui qui n'a pas la foi ne tient pas dans l'épreuve. Il est comme la semence qui tombe dans un endroit pierreux. Il reçoit la parole avec joie, mais il n'a pas de racines. Il est l'homme d'un moment. Dès que survient une épreuve, il y trouve une occasion de chute. Pourquoi Dieu me fait ça? S'il ne peut même pas garder mon petit royaume pour me fournir le bien-être et la facilité permanente, je ne veux pas de ce valet. C'est ça que ça veut dire. Mais celui qui a la foi ne traite pas Dieu en serviteur, mais en roi. Celui qui a la foi ne traite pas Dieu en serviteur, mais en roi. Les épreuves vont nous montrer nos besoins, et particulièrement un besoin que nous allons voir dans notre premier point aujourd'hui. Donc les épreuves vont nous montrer nos besoins, et en tout particulier un que nous allons voir dans notre premier point. Ensuite, nous allons réfléchir où trouver la sagesse. De quelle sagesse il s'agit? C'est notre deuxième point. Où trouver quelle sagesse? Et nous allons, en troisième lieu, réfléchir à la question suivante. Comment Dieu donne-t-il sans reproche si la foi est demandée? Comment Dieu donne-t-il sans reproche si la foi est demandée? Autrement dit, que signifie demander avec foi sans douter? Ça sera notre troisième. Commençons donc par le début avec notre premier point. Nous allons relire les versets 1 à 5, mais aujourd'hui, donc, la prédication se porte particulièrement sur les versets 5 à 8. Mais relisons les versets 1 à 5 pour nous remettre dans le contexte. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfait et accompli et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Quand vous devez payer vos factures, de quoi avez-vous besoin? D'argent, c'est évident. À chaque fois que vous recevez une facture, cela vous permet de comprendre que vous avez besoin d'argent pour la payer. Eh bien, les épreuves dans cette illustration sont comme les factures, et l'argent est comme la sagesse. Dès qu'une facture épreuve arrive, il va falloir l'argent sagesse pour y faire face, chaque fois. Nos épreuves, en fait, nous montrent nos limites. Par exemple, si vous vous cassez un bras, vous serez limité dans ce que vous pouvez faire et vous aurez besoin de sagesse jusqu'à votre rétablissement d'y faire face. Les épreuves nous rendent parfois confus. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez reçu une très mauvaise nouvelle. Votre cerveau a sûrement été confus. Quelques instants ou même plusieurs jours. Quelqu'un a dit un jour, subir une épreuve, c'est passer de l'autre côté des apparences. L'épreuve, en fait, nous renvoie l'image de ce que nous sommes vraiment. L'épreuve nous renvoie l'image de ce que nous sommes vraiment. Un proverbe dit ceci, « Ne louez et ne blâmez personne avant de l'éprouver, car les hommes sont des caisses fermées dont la clé est l'épreuve. » En fait, c'est lorsque vous êtes fatigué, sans aucune résistance physique et psychique, que vous n'avez plus la force de mettre de masque, que vous êtes face à vous-même. Et ce n'est généralement pas très reluisant. En fait, vous vous rendez compte, nous nous rendons compte, c'est la même chose pour moi, que nous avons besoin d'une sagesse qui n'est pas de nous. Et tant de situations peuvent nous mettre à l'épreuve. Un accident, une maladie, des moqueries, un travail difficile, des collègues pénibles, des enfants rebelles, des crises de couple, un licenciement, la surcharge de travail, l'incompréhension et tant d'autres choses moins grave également nous montre nos limites et où il faudra réagir, prendre des décisions. Comment vivre tout cela alors en vivant Jacques 1, 2 à 4? Vous vous souvenez Jacques 1, 2 à 4 ? Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous rencontrez, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Et en fait, la réponse à la question de comment vivre cela, tout cela, eh bien, c'est Jacques 1, 5 qui nous la donne. Comment vivre les épreuves de cette manière-là ? En demandant la sagesse à Dieu. En demandant la sagesse à Dieu. Car dans l'épreuve, nous nous rendons compte de notre besoin de sagesse. C'est alors que nous remarquons, nous avons besoin de savoir comment réagir et de le faire bien de manière à honorer celui qui nous a confié la vie. On a besoin de sagesse. Comment réagir dans ces situations-là ? Comment honorer notre Seigneur ? J'aime bien une petite histoire qui dit ceci. Ça s'est passé, semble-t-il. Un jardinier écrit un jour au ministre de l'Agriculture et lui dit « J'ai essayé tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai lu, y compris vos articles, sur la façon de se débarrasser des pissenlits. Et j'en ai toujours dans le jardin. » La réponse arriva par retour de courrier, lui dit « Cher monsieur, si vous avez réellement tout essayé et que vous avez toujours des pissenlits, il ne reste qu'une chose à faire, essayez d'apprendre à les aimer. » Comme les pissenlits, il n'est pas possible de se débarrasser des épreuves du jardin de notre vie. Il n'est pas possible de se débarrasser des épreuves du jardin de notre vie. Il nous reste donc une seule chose à faire. Essayer d'apprendre à les aimer. Et cela est possible avec la sagesse de Dieu. Ne soyons pas surpris ou même étonnés de notre besoin de sagesse lorsque nous sommes face à une épreuve. Ce besoin est normal. Et même un but de l'épreuve de nous faire comprendre notre besoin de sagesse. Donc la prochaine fois qu'une épreuve nous arrive, eh bien, ne soyons pas déstabilisés lorsque cela montre notre besoin de sagesse, mais allons plutôt chercher cette sagesse. J'aime bien cette phrase du commentateur Matthew Henry qui dit ceci, « Nous ne devrions pas autant prier pour qu'une épreuve ne nous soit enlevée que pour la sagesse qui nous permet de faire bon usage de l'épreuve par laquelle nous passons. » Nous ne devrions pas autant prier pour que l'épreuve soit enlevée que pour la sagesse qui nous permet de faire face et bon usage de l'épreuve par laquelle nous passons. Mais où trouver cette sagesse ? Et de quelle sagesse s'agit-il ? Eh bien, c'est notre deuxième point. Où trouver quelle sagesse ? Et là, j'aimerais vous relire le verset 5 de Jacques. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Ce verset biblique de Jacques 1, 5 est simplement fabuleux. Il est fabuleux. Et je vous encourage à l'avoir dans vos cœurs, ce verset. Où trouver la sagesse ? Auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Et nulle part ailleurs. On a lu un texte dans Job tout à l'heure qui nous le dit très clairement. Nulle part ailleurs. Vous ne la trouvez pas dans un magasin non plus. Pas possible de la commander sur Internet d'ailleurs. Et c'est impayable. Il faut bien comprendre que c'est une sagesse selon la volonté de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de cette sagesse. Tenir compte de ce que Dieu veut, de ce qui lui fait plaisir, est la base d'une conduite qui l'honore. Vous voulez savoir comment honorer Dieu ? Est-ce que ça lui plaît ce que je suis en train de faire ? Selon sa parole, pas selon mes idées, selon sa parole. Mais j'aimerais prendre un peu de temps pour méditer sur ce que nous apprenons sur le caractère de Dieu ici. Dieu donne, et si vous regardez verset 5, hein, Dieu donne à tous libéralement et sans faire de reproche. Dieu donne à tous libéralement et sans faire de reproche. À tous, vous avez bien entendu, à tous. Il n'y a personne qui est trop grand ou trop petit, trop lourd ou trop léger, trop vieux ou trop jeune, trop qualifié ou trop ignorant. Comme on pourrait dire pour le salut. Hein, où Paul dit, il n'y a plus de juifs, ni de grecs, ni esclaves, ni hommes, ni libres, ni hommes, ni femmes, car vous êtes en Christ Jésus. En fait, ce premier aspect nous montre une différence avec nous. En fait, nous trions facilement ceux à qui nous donnons. Nous trions facilement ceux à qui nous donnons de l'aide. Hein, ou inversement, nous nous rendons compte que nous ne recevons parfois rien parce que nous ne faisons pas la bonne taille, que nous n'avons pas le bon salaire. Non mais... rien de cela auprès de Dieu. Il donne libéralement à tous sans faire de reproche. On pourrait dire Dieu donne avec joie. Et il donne à nouveau chaque fois que nous allons vers lui. Il ne nous dit pas, ça fait la 10e fois que tu viens demander la sagesse dans cette dernière heure. Tu veux pas une fois te débrouiller tout seul, devenir un grand garçon, une grande fille, hein? Si quelqu'un venait vous demander toujours la même chose, on viendrait un peu fatigué, non? De ces demandes incessantes. Nous dirions, avec toutes les fois que je t'ai déjà donné. Mais Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas comme nous. Dieu ne se lasse pas de donner. Il ne se lasse pas de donner. Et il ne fait absolument rien pour nous rendre indépendants de lui. Il ne fait rien pour nous rendre indépendants de lui. Au contraire, il veut que nous lui demandions sans cesse. Il veut que nous lui demandions sans cesse. Donc là, on doit modifier, hein, quand on a toujours cette notion, nous on est limité, on veut pas donner sous. Dieu, il n'y a pas cette limite. Encore une chose à modifier dans notre logique. On dit que quelqu'un est sage lorsqu'il n'a plus besoin de demander l'avis de quelqu'un, ou de demander conseil, ou de demander à Dieu de lui donner la sagesse. Là, il est sage, il n'a plus besoin. Mais ce n'est pas la logique de Dieu. En fait, c'est celui qui va le plus demander la sagesse qui est considéré comme sage pour Dieu. C'est celui qui va le plus demander la sagesse qui est considéré comme sage. Quelqu'un a d'ailleurs dit, les propos des hommes sages consistent à reconnaître spontanément ne pas l'être assez. Donc les propos des hommes sages consistent à reconnaître spontanément ne pas l'être assez, ne pas être assez sage. Si vous allez donc continuellement demander la sagesse à Dieu, eh bien ne vous arrêtez pas. En vous disant, si vous étiez sage, vous n'auriez plus besoin d'aller vers lui. Mais Dieu nous donne en fait ce dont nous avons besoin pour la situation dans laquelle nous sommes, pas plus ni moins. Une personne est allée un jour vers son pasteur, il a dit, pasteur, je vois tant de personnes mourir de façon paisible, mais j'ai pas cette paix. Et que lui répond le pasteur, mais c'est normal, tu es encore vivant. Dieu nous donne en son temps et nous sommes appelés à aller continuellement vers lui, comme pour notre pain quotidien. Vous connaissez la prière du Notre Père. Il n'est pas dit, donne-nous notre pain de ce mois, de ce jour. Eh bien, pour les épreuves, il en est de même. Nous prions pour la sagesse pour l'épreuve dans laquelle nous sommes. On ne va pas recevoir la sagesse pour d'autres épreuves, on reçoit pour ce qu'on a besoin. Et j'aimerais souligner encore un dernier aspect. Est-ce que vous avez déjà constaté, ou peut-être vécu, là, il faut revenir en arrière en tant qu'enfant, constater que parfois les enfants se mettent à chercher à détecter quand c'est le bon moment de faire une demande à ses parents. T'as déjà vu ça? Hein? Ou en fait, il est inutile de poser une question lorsque le match de foot a commencé. Papa,
ne dérange pas, papa, c'est pas le bon moment.
Hein? Ou le repas est prêt et déborde et ça va dans tous les sens. Ne va pas demander quelque chose à maman, c'est pas le moment. Ou la journée a été difficile, la fatigue se fait sentir. Vous avez déjà vu ce genre de choses? Eh bien, Dieu n'est pas comme ça. Pas comme ça. Il n'est pas touché par le péché et les conséquences de la chute. Dieu est toujours bien disposé et ne fait pas de reproches. Il est toujours bien disposé. Vous ne devez pas dire, est-ce que maintenant je peux y aller? Ou là maintenant je n'ai pas péché pendant 52 minutes, c'est bon, je peux y aller. Non, Dieu est toujours bien disposé pour celui qui s'approche de lui avec foi. Il ne va pas chercher dans le passé toutes les fautes commises lors des épreuves précédentes mal gérées, etc. Ce qui est pardonné, et il choisit de ne plus y penser. Donc il va pas vous dire, oh mais t'as pas déjà vécu cette épreuve-là? Je t'ai déjà donné la sagesse. En plus, tu t'étais loupé. Non, il nous donne. Dieu n'est jamais fatigué de nous donner la sagesse que nous lui demandons. Il n'est pas comme nous, qui plus on demande, moins on a envie de donner. T'as déjà vu ça? Quelqu'un qui a vu vous demander, il vient pour vous demander, il vient pour vous demander, par la fin, tu dis, attends, mais c'est bien. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Plus on demande, plus on est bienvenu. Donc n'hésitez pas, continuez à aller. Plus nous demandons, plus nous sommes bienvenus. Et il y a cette merveilleuse promesse à la fin du verset 5, hein, et elle lui sera donnée. C'est écrit. Ta sagesse lui sera donnée. Demandez et vous recevrez, nous disait Jésus. Vous savez, la vitrine du magasin de la sagesse de Dieu, il est écrit ceci, sagesse toujours disponible, jamais de rupture de stock. Donc n'hésitons jamais à demander la sagesse à Dieu. Chaque épreuve, chaque changement de programme non prévu, chaque situation qui ne se déroule pas comme nous le voulons, qui dérange notre confort, nos idées, n'hésitons pas à courir vers Dieu lui demander la sagesse pour vivre cette épreuve, petite ou grande, en la considérant comme une joie, un moyen de glorifier Dieu. Car nous savons que l'épreuve de notre foi produit la patience qui a tant de conséquences positives. Ça, nous avions vu la dernière fois, hein, puisqu'on avait parlé déjà cette première partie. On a vu toutes les conséquences positives de la patience, de ce que ça signifie dans nos vies. Mais vous allez me dire, mais si je suis ton conseil, je vais prier très souvent pour demander la sagesse. Ben, c'est justement ce que je vous conseille. Mais oui, allons-y continuellement. Très bien, pasteur Tim, me direz-vous. Nous comprenons maintenant le caractère de Dieu qui donne sans retenue. Mais est-ce que tu as lu le verset 6 qui vient juste après? N'as-tu pas vu qu'il y a quand même une condition et que Dieu ne donne pas toujours la sagesse? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans notre troisième point. Comment Dieu donne-t-il sans reproche si la foi est demandée? Alors, lisons les versets 6 à 8 pour les remettre en tête. Donc, verset 6, Jacques 1, 6. « Mais qu'il l'a, donc la sagesse, hein, la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » On pourrait dire, « Moi, il m'arrive de douter. Donc, je n'ai aucune chance. Il est dit que celui qui doute ne doit pas penser qu'il recevra quelque chose du Seigneur. »
Quelle exégèse extraordinaire.
Si tel était le cas, quelle serait alors l'explication du verset 5 que nous venons de voir? Dieu donne à celui qui demande libéralement sans faire de reproches et elle lui sera donnée. Et nous voilà dans une contradiction, semble-t-il, ici. Dieu donne, mais il faut penser qu'on recevra quelque chose, faut pas penser qu'on recevra quelque chose parce que personne ici ne peut dire qu'il n'a jamais douté. Dieu donne, mais on ne peut pas recevoir. C'est absurde. Nous n'allons pas reprendre le verset 5 ici. Nous en avons déjà parlé tout à l'heure et qui nous a permis de connaître le caractère de Dieu qui n'est pas comme nous, qui donne sans limite. Ça, c'est clair. Et les versets 6 à 8 ne parlent plus de Dieu, mais de celui qui s'approche de Dieu. Ça, c'est déjà un élément important à comprendre. On n'est plus en train de parler de Dieu, mais de celui qui s'approche de Dieu. Et la première caractéristique est la foi. Cette foi qu'on va encore parler, qu'on va encore voir dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques parle de la foi en plusieurs parties. Une foi qui se manifeste par les actes. Une foi qui n'est pas morte, une foi qui est vivante. Et dans le cadre de la demande de la sagesse, une foi vivante est une foi qui va mettre en pratique cette sagesse reçue. Ce n'est pas une foi qui stocke la sagesse dans la cave de son existence et puis peut-être qu'il va s'en servir une fois. Non! Elle utilise la sagesse reçue comme nous mangeons le pain quotidien reçu. Cela nous amène à un premier éclairage. La foi demandée est en fait une confiance en celui vers qui nous nous adressons pour demander la sagesse, prêt à utiliser ce qui sera donné. Ça, c'est un premier aspect de se sans douter, d'avoir la foi. C'est une foi active, une foi qui se démontre par les œuvres. Hein, on verra ça dans Jacques encore plus loin. Donc la foi demandée est en fait une confiance en celui vers qui nous nous adressons pour demander la sagesse, prêt à utiliser ce qui sera donné. Maintenant, un peu plus loin, que veut dire sans douter? Alors, est-ce que cela veut dire sans assurance? Si j'ai pas l'assurance, je suis pas totalement sûr qu'il va me le donner, bon ben j'aurai rien. En fait, c'est la suite du passage qui va nous aider et nous permettre même de ne pas avoir besoin d'analyser le mot originel pour douter ici. Le mot original douter, il est très intéressant. Je ne vais pas trop m'approcher ici ce matin, pour une question de temps aussi. Et aussi parce que le contexte nous permet déjà, en fait, d'avoir la réponse. Le contexte nous donne la précision de celui qui doute. Hein, si on va regarder celui qui doute, eh bien, on va regarder le contexte. Et deux choses sont dites ici. La première, c'est qu'il est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. En fait, ça nous indique une grande instabilité. Cela ne correspond pas à une foi vivante qui met en pratique les conseils reçus. C'est plutôt une indécision qui met un peu le conseil en pratique et qui ensuite fait l'inverse pour se dire que ben il était quand même sympa ce conseil, mais j'ai pas vraiment envie de le faire. Donc je vais pas vivre cette sagesse qui m'a été donnée. Mais bon, ça plaît pas à Dieu. Donc faudrait quand même que je le fasse. Puis non, mais j'ai pas vraiment envie. Ben, franchement, ça me demande un effort. Mais non, je vais laisser. Vous voyez, c'est les vagues qui sont emportées, comme les flots de la mer. Si vous cherchez à mettre en pratique la sagesse de Dieu dans vos épreuves, petite ou grande, vous dites oui, je veux mettre cette sagesse que j'ai reçue de Dieu. C'est pas toujours facile, c'est vrai, j'ai des fois de la peine. Mais si vous voulez mettre en pratique la sagesse que vous recevez de Dieu, que vous comprenez sa parole, vous n'êtes pas une personne qui doute ici selon ce texte. Si vous attendez la perfection de la foi qui n'a aucun questionnement, mais je veux dire, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est pas ça que Dieu nous demande. Mais c'est cette notion de dire quand je cherche la sagesse, et la sagesse, très souvent, vous la connaissez parce qu'on la reçoit dans la parole de Dieu. Dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? J'ai une épreuve au travail, on me demande de tricher par rapport à ceci et cela. La sagesse de Dieu est là, c'est clair, hein. Alors je prie et puis ben je vais quand même tricher. Je suis un homme irrésolu qui va d'un côté de l'autre. Je vais chercher la sagesse, mais je la vis pas, etc. Ça, c'est un premier élément. Deuxième caractéristique de celui qui doute, un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors, l'inconstance nous rappelle le mouvement du flot de la mer. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur le terme irrésolu. Or, ce terme, en fait, il est difficile à traduire parce que Jacques, c'est le seul qui l'utilise dans le Nouveau Testament, ce mot. Il l'utilise deux fois. Il l'utilise ici au chapitre 4, verset 8. Et puis, en fait, c'est un mot qui veut littéralement dire qu'il y a une double âme, une âme doublée. C'est pour ça que vous trouvez des traductions comme un homme dont le cœur est partagé, à l'âme partagée, un homme partagé, hein, c'est peut-être dans la traduction que vous lisez. Irrésolu veut dire donc qu'il y a de la peine à se déterminer à prendre parti. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais pas le faire? Est-ce que... Celui qui doute ici est une personne qui ne veut pas vraiment prendre le parti de Dieu. C'est ça ici douter. C'est je veux pas vraiment prendre le parti de Dieu. Je veux bien que tu me donnes la sagesse, mais je ne veux pas de toi. C'est ça. La sagesse, ok, mais toi non. Une illustration intéressante. J'en ai deux ici, mais une c'est Augustin, avant sa conversion, en fait, vivait dans l'immoralité sexuelle. Mais il priait déjà, à cette époque-là. Il disait, « Oh Seigneur, donne-moi la pureté !» Ben ouais, parce qu'il se rendait compte que ben toute cette impureté qu'il vivait, ben c'est quelque chose qui était difficile, qui lui pesait sur son cœur. Donc il disait, « Donne-moi la pureté !» Mais pas maintenant. Parce qu'en fait, ben il voulait continuer à vivre dans son péché. Il voulait pas en sortir de ce péché. Il voulait quelque part, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre. Il voulait que Dieu le purifie, qu'il soit libéré de ce poids, mais en fait, il voulait continuer dans l'impureté de son péché. C'est ça, cette notion irrésolue, ici. Une autre illustration marquante que l'on a dans la parole de Dieu, c'est les Israélites. En fait, vous savez que les Israélites ont été envahis par les Babyloniens. Ça va, vous revenez dans l'époque, là? Donc il y en a plusieurs qui sont partis, il y avait le prophète Jérémie qui était présent. Les Babyloniens ont mis en place des personnes qui étaient responsables du peuple, gouverneurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat, ils ont tué ces personnes, et puis ensuite ils ont dit, ben, on va fuir en Égypte, parce qu'ils ont eu peur des Babyloniens. Après ils ont dit, attends, on va demander la sagesse à Dieu, si on prend le texte aujourd'hui, on va demander à Dieu, et puis en fait on va lui obéir. Ils disent très clairement dans Jérémie 42:6, nous ferons tout ce que Dieu nous dit. Nous sommes pas des personnes irrésolues, évidemment, hein. Bon. Jérémie leur donne la parole de Dieu, très claire, de ne pas aller en Égypte et de rester au pays. Que font-ils? Ils partent en Égypte et ils forcent Jérémie à aller avec eux. Ce sont des gens irrésolus. Vous comprenez? C'est ça que ça signifie dans ce texte. Ils sont partis en Égypte contre la parole de l'Éternel. On demande la sagesse, en fait, mais, comme Augustin, hein, purifie-moi, mais pas maintenant. C'est pas tout. C'est cela, douter. Dans le texte de Jacques 1, verset 6, qu'il demande avec foi sans douter, on pourrait dire sans plan B, sans un désir d'utiliser la sagesse pour son royaume personnel. C'est deux éléments importants aussi. C'est pas je vais demander la sagesse à Dieu, mais moi j'ai mon plan B, quoi. Puis s'il me plaît pas ce plan, ben je ferai mon plan B. C'est ça, cette notion de vague irrésolue et de douter. Ou la sagesse pour un royaume personnel. Ça, on va le voir un petit peu plus tard dans le chapitre 4 de Jacques. On verra ce qu'il dit là. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. Dieu donne la sagesse pour vivre pour le royaume de Dieu, pas pour notre royaume personnel. Donc celui qui va vers Dieu pour demander la sagesse pour vivre son royaume personnel, eh bien c'est une personne irrésolue, une personne qui va dans tous les sens. Cette personne qui doute ici. Donc ainsi, face à l'épreuve, n'hésitez pas à demander à la sagesse à Dieu avec une foi vivante qui désire mettre en pratique ce qu'il vous montrera sans plan B pour une vie plus confortable ou selon la sagesse du monde. Ce texte ne parle pas des doutes intellectuels. Parfois, on peut se demander si on a vraiment bien prié ou si Dieu va faire ce que nous avons demandé. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose qu'on a demandé? Donc, on doute de ce qu'on a demandé. Donc, on se dit, ben voilà, je doute, donc je ne savais pas. Mais non, c'est pas ça ici. Dieu fera toujours ce qui est bon selon lui. Et le don de la sagesse ne dépend pas de la perfection de notre demande. On a vu tout à l'heure, il le donne toujours. Mais ne soyons pas irrésolus. Il y a tellement de choses que Dieu nous dit dans sa parole. Je vais donner quelques exemples. La première obéissance quand on vient au Seigneur, c'est de se faire baptiser. Donc de publiquement partager sa foi. Celui qui ne se fait pas baptiser, alors il demande la sagesse à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour vivre selon toi? Il ne se fait pas baptiser. C'est un homme résolu. Il doute. Plan B. Ah non, pas maintenant. Je ne suis pas assez bon. Ce n'est pas le moment. Attendez, mais qu'est-ce que dit la parole? À l'épreuve d'un choix d'un conjoint aussi. Celui qui est irrésolu, il a le plan B, il dit, Seigneur, est-ce que c'est cette personne? Elle n'est pas dans la foi, elle n'est pas dans le Seigneur. Est-ce que c'est cette personne? Ouais, tu dis, mais, elle va venir à la foi par moi. Évidemment. Non? Parce que la parole, elle est claire face à ce sujet. Ou tant d'autres choses. Je veux que tu aides tous ceux qui sont autour de moi. Mais bon, moi, il faut que je puisse être tranquille dans mon petit fauteuil, et puis qu'on ne vienne pas trop me déranger. Alors que la sagesse nous dit que on est appelé à donner ce que l'on peut, selon les capacités que Dieu nous donne, etc. Vous pouvez réfléchir à cette notion. Avez-vous déjà été irrésolu? Moi, oui, malheureusement. Mais la grâce existe. Et c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pas de dire, si vous êtes des gens irrésolus, c'est perdu, c'est fini, plus de possibilités. Non! Mais non, la repentance existe. Si nous voyons que nous avons été irrésolus dans un sujet ou un autre, eh bien, nous allons demander pardon à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va nous dire? Ah non, le magasin est fermé. Plus possible. Pas du tout. Il dit, viens. Je veux t'accorder ce pardon. Mais on va pas juste demander pardon puis recommencer. Ça, c'est pas de la repentance. Nous allons chercher à couper avec ce qui nous fait entrer dans cette irrésolution. Et nous allons désirer nous engager à vivre pour Dieu, n'hésitant à aucun instant à demander la sagesse à Dieu pour le faire, parce qu'on se rend bien compte qu'on en a besoin. En conclusion, j'aimerais qu'on retienne deux choses importantes. Pour en retenir d'autres et en partager d'autres après le culte, à ceux qui sont autour de vous. Mais voici une première, c'est que ne nous concentrons pas sur ce que nous pourrions douter, mais sur Dieu et son caractère. Ça, c'est un élément important. N'est pas dire, est-ce que je suis en train de douter? Est-ce que je suis pas en train... Non. Concentrez-vous sur Dieu. Est-ce que Dieu veut nous donner la sagesse? Comment est-ce qu'il le fait? Ne jouons pas dans deux camps irréconciliables, celui de Dieu et celui du monde. Vous avez déjà vu quelqu'un qui fait un grand écart? J'arrive pas à faire ça, mais enfin, j'avais essayé, mais... Quand on fait un grand écart, est-ce qu'on peut marcher? C'est très mal. On peut pas avancer. C'est pas possible! Ne le faites pas entre Dieu et le monde. Deuxième conclusion, c'est que n'hésitons pas à demander la sagesse. Parce que la promesse de Jacques 1, verset 5 est fabuleuse. Apprenez Jacques 1, 5 par cœur. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement, sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, j'aimerais te dire merci parce que Jacques connaissait la situation de ceux à qui il écrivait. Il savait qu'ils avaient besoin d'être encouragés dans leurs épreuves. Ils avaient besoin d'entendre que il n'y a pas de limite dans ce que tu donnes, parce que tu es un Dieu sans limite. Il n'y a pas d'horaire de fermeture, il n'y a pas à attendre si tu es bien disposé ou non. Il n'y a pas à se dire, mais je suis déjà tellement venu. Oh merci Seigneur, parce que tu nous dis, si tu viens souvent, t'es encore plus bienvenu. Quelle grâce et quel encouragement. Et j'aimerais Seigneur te prie aussi de nous aider à être rassurés par rapport aux doutes, si nous avons ces mauvaises interprétations qui souvent ont été données. Tu veux vivre pour Dieu, tu lui demandes la sainteté, tu veux te donner à fond, mais tu reçois pas, tu doutes, voilà. Non. Par contre Seigneur, soyons avertis de ne pas avoir un un double cœur, une double âme, une âme partagée, qui désire en même temps vivre pour toi et en même temps, ben, non, pas vraiment, parce que on est mieux sans toi, on n'a pas les mêmes épreuves. Ou... Oh Seigneur, je te demande pardon, parce que bien des fois, bien, j'ai cherché ailleurs que vers toi, la sagesse, la force. Et j'aimerais, Seigneur, te prier de nous donner cette grâce en 2023, d'avoir un réflexe. Un réflexe, c'est que lorsque nous sommes face à une épreuve, nous désirions la vivre dans la joie. Parce que nous savons qu'elle produira quelque chose. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de ne pas nous révolter face aux circonstances que tu permets, que tu guides. Donne-nous aussi de comprendre lorsque nous avons péché, de nous repentir. Et de nous réjouir de ta grâce. Et j'aimerais, Seigneur, te prier vraiment de nous remplir de ta sagesse, afin que les épreuves que nous rencontrons soient pour nous des outils que tu utilises pour nous rendre encore plus conformes à Christ et heureux en toi, malgré les difficultés, malgré les faiblesses. J'aimerais, Seigneur, te prier aussi pour ceux qui passent par des épreuves difficiles actuellement, que ce soit des épreuves de santé, que ce soit des épreuves de famille, que ce soit des épreuves de toutes sortes qui nous poussent parfois presque à être dans le désespoir. Eh bien, j'aimerais, Seigneur, te prier que tous ceux qui passent par ces épreuves-là puissent être puissamment encouragés, fortifiés par toi, parce que nous savons que ces épreuves ne vont pas durer éternellement et que tu vas donner la force pour les traverser. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.